les chroniques Road Movies au FIC du professeur Rosemini.
Well, here we are on the road.
Yeah, that's where we are, all right.
Tous les dimanches à 11h30 sur le 888.
Surveys and only free off for the war.
Et sur radiogrenouille.com.
Dans le cadre de la réflexion sur l'art, depuis l'Antiquité, notamment depuis Aristote, il y a un débat qui revient, c'est le débat sur les mérites comparés de la comédie et de la tragédie. Globalement, et notamment par Aristote, justement, la comédie est considérée comme un genre inférieur par rapport à la tragédie, notamment parce qu'elle serait moins noble, moins digne de l'homme, moins légitime. Et la tragédie, par contre, serait le grand genre. Alors, ce débat, comédie versus tragédie, il est incarné dans un film américain de 1941 que je vous recommande vivement, un film de Preston Sturges qui s'appelle Les Voyages de Sullivan.
I want this picture to be a commentary on modern conditions, stark realism, the problems that confront the average man.
But with a little sex.
A little, but I don't want to stress it. I want this picture to be a document. I want to hold a mirror up to life. I want this to be a picture of dignity, a true canvas of the suffering of humanity.
But with a little sex.
With a little sex in it.
How about a nice musical?
How can you talk about musicals at a time like this with the world committing suicide?
Alors, ce film n'est pas un road movie au sens strict. Bon, d'abord, 1941, la catégorie de road movie n'existe pas encore. Mais en tout cas, c'est un film qui accorde une importance essentielle à la route, au thème de la route. La route, dans le film, apparaît d'abord, comme très souvent dans les films de route, comme un lieu initiatique, comme un lieu de métamorphose du personnage. À cet égard, Sullivan fait écho au mot Gulliver. On peut penser au voyage de Gulliver. Il y a une allusion ici qui est assez directe. La route apparaît aussi dans ce film, comme dans d'autres films de l'époque, comme le lieu de la rencontre avec le peuple. La route et le peuple, j'en ai déjà parlé dans d'autres chroniques, c'est quelque chose qui est très lié dans le cinéma américain, notamment dans le cinéma américain de ces années-là. Par exemple, j'en avais parlé avec un thème qui revient comme ça dans le film de Capra, New York, Miami, film auquel j'avais consacré une chronique. Sauf que dans beaucoup de films, comme dans New York, Miami, par exemple, la rencontre avec le peuple est un effet secondaire. On prend la route pour une raison, et puis il se trouve qu'on y rencontre le peuple. Alors qu'ici, en fait, dans ce film, c'est l'objectif prioritaire, puisque le Sullivan en question est un réalisateur qui veut faire un film justement sur le peuple, sur la misère, sur les conditions de vie des vrais gens. Et donc, il va s'immerger, il va vouloir s'immerger dans ce vécu populaire et il va vouloir faire la route pour rencontrer le peuple. En fait, il veut adapter un roman qui s'appelle « Oh Brother, Where Are You ?». J'y reviendrai à la fin de cette chronique. Et alors, ce qui est intéressant donc dans le film, c'est que Les Voyages de Sullivan est un film qui est à la fois une mise en abîme du cinéma et un film qui va jouer sur l'interfilmicité. Il y a plusieurs films dans le film. Alors d'abord, il y a justement le film que Sullivan veut faire, alors qu'il ne fera pas finalement, d'ailleurs, à la fin il va y renoncer. Il y a les films que les personnages regardent, parce que plusieurs fois dans le film, les personnages vont au cinéma et regardent des images. Il y a aussi les films des cinéastes que l'on cite, puisque comme c'est un film qui s'enracine dans Hollywood, finalement, on parle des cinéastes, et notamment il y a deux cinéastes qui reviennent souvent, c'est Capra et Lubitsch, qui sont cités, nommément dans le film. Et puis aussi, il y a tous les films qui sont cités plus ou moins directement. On est en 1941, donc le cinéma a déjà quelques années. Et donc, il y a des références. Alors, il y a des références notamment plus ou moins explicites à Chaplin, il y en a plusieurs. Et puis, il y a aussi des références à un film comme « Je suis un évadé » de Melvin Leroy, auquel j'ai consacré récemment une chronique road movie zophique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Voyages de Sullivan apparaissent à la fois comme un hommage et comme une parodie un peu moqueuse de « Je suis un évadé ». Et c'est justement cette ambiguïté entre hommage et parodie qui fait le charme tout à fait particulier de ce film. Le film, en fait, hésite. C'est un film qui oscille tout le long entre, justement, la comédie et la tragédie, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Alors, par exemple, le film commence par une dédicace qui est faite aux clowns, aux acrobates, à tous ceux qui nous ont donné comme ça du plaisir au cirque, au monde du plaisir immédiat. Et puis, après cette dédicace, de manière assez surprenante pour le spectateur, il y a une séquence, au contraire, très dramatique, très violente, avec une musique très expressionniste, un usage expressionniste aussi du clair-obscur. C'est deux personnages qui se battent sur un train, puis ils tombent du train. Et donc on se demande un peu quel est le rapport entre cette dédicace très légère et puis cette séquence très dramatique. Et puis en fait, là encore, nouvelle rupture de ton. En fait, cette séquence sur le combat sur le train, là, en fait, il s'agissait de visionnage de Rush par des producteurs et un réalisateur. Et donc va s'en suivre un débat sur le cinéma entre le réalisateur Sullivan donc et les producteurs, où on parle justement de l'opposition entre la comédie de divertissement et le drame social. Le drame social qui veut représenter la misère pour la dénoncer. Le cinéma qui aurait un message moral et politique. Et justement, alors les producteurs disent à Sullivan, donc tu veux faire un film à la Capra. Mais alors le Capra dont il s'agit ici, c'est plutôt celui bien sûr de Monsieur Smith au Sénat, que Capra a réalisé peu d'années avant, plutôt que celui de New York-Miami, hein, qui date de 1934. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est que ce débat entre les producteurs et les réalisateurs, il fait écho à une théorie, en fait, une théorie qui traverse toute la philosophie de l'art, qui considère que le contenu d'une œuvre, le contenu religieux, moral, etc., lui donnerait sa vraie valeur, que ce serait une œuvre tiendrait sa valeur et sa dignité de son contenu. Thèse, évidemment, hautement discutable. Les producteurs, ici, en fait, apparaissent comme des défenseurs de la comédie, alors non pas pour des raisons philosophiques, évidemment, mais pour des raisons, sans doute, essentiellement commerciales. Et ils reprochent à Sullivan d'avoir envie de faire un film que personne n'ira voir. Donc le film est bien sûr aussi une satire d'Hollywood qui va jouer sur des archétypes. Par exemple, il va y avoir l'archétype de la starlette, de la jolie blonde, un peu perdue à Hollywood, qui veut à tout prix devenir une star. Personnage qu'on va retrouver, par exemple, cette jolie blonde perdue à Hollywood qui veut devenir une star, on va la retrouver beaucoup plus tard dans Mulholland Drive de Lynch, par exemple, hein, pour citer un film très différent. Alors, ce qui est très intéressant dans le film de Preston Sturges, donc Le Voyage de Sullivan, c'est que le film va lui-même hésiter et osciller entre des séquences comiques qui relèvent donc de ce qu'on a appelé la screwball comédie, la comédie loufoque, justement, le genre qui a été inauguré par New York-Miami, et puis des séquences dramatiques, tournées dans des lieux sordides, avec une représentation assez réaliste et assez crue de la pauvreté. Et donc ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, Preston Sturges va faire le film social que Sullivan voudrait faire, mais que finalement il ne fera pas. Et à cet égard, il y a des très belles séquences, justement. La séquence où le train, par exemple, est assailli par les hobos, les vagabonds. La séquence où les miséreux dorment les uns sur les autres, entassés, couchés au sol. Une séquence au bagne aussi, alors là qui est une référence directe à « Je suis un évadé » de Melvin Leroy. Et la séquence au bagne, elle est intéressante parce qu'elle est précédée par une séquence qui est tournée avec des images floues. La séquence du procès de Sullivan, justement, qui va l'envoyer au bagne. Et cette séquence floue, justement, c'est le moment de la perte de conscience, de l'amnésie et du passage dans un autre type de réalité. Et qui exprime bien, justement, ce changement de ton perpétuel qu'on trouve dans ce film. La dimension comique, par contre, elle va être souvent liée au jeu sur les stéréotypes liés à la route. Alors c'est intéressant parce que dans le road movie, il y a toujours du stéréotype, hein, il y a toujours du cliché. De toute façon, un genre ne peut jamais complètement échapper au cliché, évidemment. Donc par exemple, les stéréotypes, ça va être le jeu sur les véhicules. On sait que le véhicule a dans les films de route souvent un statut de personnage, un statut métaphorique, métonymique, symbolique. Par exemple, Sullivan, bon, les producteurs acceptent qu'il aille se mêler au peuple, mais au départ, ils le suivent avec un bus. Donc, il marche tout seul sur la route comme ça, puis un bus avec un médecin qui l'assiste, parce que comme c'est un cinéaste connu, il ne faut pas prendre de risques. À un moment aussi, il fait du stop et il est pris par une voiture de course totalement improbable qui est conduite par un très jeune enfant. Donc là aussi, on ne sait pas d'où elle sort, on ne sait pas d'où elle va. Ça va donner lieu d'ailleurs à un autre motif récurrent des films de route, c'est la sortie de route, hein, on va sortir de la route, on va rouler dans les champs, etc. Et donc voilà, on a ici quelque chose qui relève du comique parce qu'on joue déjà en 1941 avec ces stéréotypes de la route qui vont faire le bonheur des cinéastes ensuite des années 70, 80, 90, etc. Go to it, Lieutenant. Get in. Alors le caractère justement, ce changement de ton permanent, le caractère hybride du film, avait pas mal déconcerté la critique en fait à l'époque. Hein. Ça avait été une des explications d'un accueil critique un peu mitigé. Et en fait je trouve ça complètement injuste parce que ce caractère hybride n'est pas une maladresse puisqu'il est complètement, non seulement il est assumé par le réalisateur, mais il est au cœur même du thème du film, il est au cœur même de ce qu'est le film, puisque le film, encore une fois, s'enracine au départ sur cette discussion de la noblesse et de la légitimité réciproque de la comédie ou de la tragédie. Et donc, c'est au contraire une œuvre, je trouve, où il y a une harmonie très forte entre le thème et la forme du film. À cet égard, d'ailleurs, ces deux Ces deux axes, l'axe comique, l'axe tragique, disons, se croisent dans une scène qui est, selon moi, d'ailleurs, la scène centrale du film, qui se passe dans une église, donc, qui commence par des gospels, puisque c'est une église noire, qui accueille justement les bagnards qui sont au bagne juste à côté. Pour eux, alors on ne sait pas trop pourquoi au départ, on les accueille, on pense qu'ils vont assister à une messe, et puis en fait non. On déploie un écran et on regarde un film d'animation avec un film de Mickey. Et là, eh bien, tout le monde s'amuse, tout le monde rit, il y a des très beaux portraits à ce moment-là, des très beaux gros plans très marquants. Et en fait, tout le monde s'amuse, alors aussi bien les enfants noirs que les bagnards blancs, voilà, il y a cette dimension un peu universelle. Et Sullivan lui-même, Sullivan qui condamnait au départ du film la comédie comme justement trop légère, trop vaine, eh bien lui-même se surprend à rire. Et là, il y a vraiment une très, très belle symbolique, je trouve, sur cette universalité du comique et sur cette puissance de libération dont le rire est porteur. Et en fait, il va y avoir donc ici une révélation de Sullivan sur la noblesse de la comédie, sur sa puissance. Et il y a aussi, je trouve, un rapprochement intéressant entre l'église et le cinéma, puisque bah, le film est projeté dans l'église. Et en fait, on a l'impression que Preston Sturges est quasiment veut nous dire que le cinéma, bah, c'est la religion, le cinéma comique surtout, c'est une religion universelle. C'est une religion parce qu'elle rapproche, hein, religéré. Une des deux étymologies possibles du mot religion, c'est religéré, c'est relié. Bah, ici, voilà, on a des hommes, des humains, des enfants et des adultes, des noirs et des blancs, des vieux, des délinquants et des gens honnêtes, et bien tous ces gens-là sont rapprochés, ils sont en communion dans le rire et dans l'émotion cinématographique. D'où sans doute la dédicace dont je parlais tout à l'heure et qui ouvre le film. Avant de clore cette chronique, trois petites remarques pour terminer. Tout d'abord, un conseil de lecture. Il me semble que ce film fait écho à un texte récent de Jacques Rancière, le philosophe Jacques Rancière, un livre qui s'appelle « Aesthésis », qui a été publié en 2011, où justement Jacques Rancière réfléchit sur les hiérarchies en art, sur ce hiatus entre la comédie et la tragédie. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, il remarque que certains auteurs, comme Stéphane Mallarmé, Théophile Gautier, Théodore de Banville, etc., eh bien, quand ils ont cherché l'art pur, l'art pour l'art, ils ne l'ont pas cherché justement dans les tragédies les plus sérieuses, mais ils l'ont cherché au contraire dans le cirque, dans le théâtre populaire, dans le mime. Parce que justement, ces formes d'art, eh bien, elles n'ont aucune recherche de justification extérieure. Finalement, ce sont des formes d'art qui existent pour elles-mêmes et qui n'ont pas besoin, pour s'assumer, de se référer à un discours moral ou à un discours religieux ou à un discours politique. Finalement, l'art pour l'art, c'est peut-être justement l'art qui procure un plaisir immédiat sans avoir besoin de se justifier. Autre chose, je le disais tout à l'heure, le film, je l'ai dit, se caractérise par une interfilmicité. Il y a beaucoup de films dans le film. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça s'est passé aussi 60 ans plus tard, puisque j'ai dit tout à l'heure que Sullivan veut faire un film qui est tiré du livre « Oh Brother, Where Are You ?». Et il ne le fera pas, mais finalement, bah, ce film, enfin ce titre en tout cas, sera repris 60 ans plus tard par les frères Cohen, hein, puisqu'ils ont tourné ce film, et qui est justement un film de bagnard, qui est un hommage lointain au voyage de Sullivan. Et puis enfin, je terminerai par une citation du cinéaste lui-même, de l'auteur du film, qui déclarait ceci. « Après avoir vu plusieurs films tournés par certains réalisateurs de comédie qui avaient abandonné la notion de plaisir pour délivrer leur message, j'ai écrit Les Voyages de Sullivan pour leur dire qu'ils se prenaient trop au sérieux. Il faut laisser les sermons aux prêcheurs. »
Les chroniques rodmovisophiques du professeur Rosmini.
Well, here we are on the road.
Yeah, that's where we are, all right.
Tous les dimanches à 11h30 sur le 888.
Surveys and we free all for the war.
Et sur radiogrenouille.com.